Toujours bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Normalement, on a des temps de louange un peu plus longs, mais on a déjà pu vivre vraiment un temps vraiment intense. On a pu adorer Dieu, passer du temps dans sa présence. Et je suis tellement encouragé et enthousiaste de voir ce qu'on vit aussi en tant qu'Église. J'ai vraiment l'impression que Dieu nous amène plus loin, qu'il nous parle et puis qu'on va de l'avant. Il y a un mois, j'ai prêché un message qui s'intitulait « Ne pas en rester là », de quitter cette mentalité d'Égypte qui nous retient parfois vraiment dans le désert pour pouvoir pleinement rentrer dans le pays promis, qu'on puisse passer le Jourdain. Et il y a peu, un peu plus d'une semaine, lors de la soirée d'intercession, la soirée percée, on a vraiment pu vivre ce positionnement de mettre, comme dans le texte, l'arche de l'Alliance en premier pour passer ensemble ce Jourdain, mettre d'abord la présence de Dieu dans la louange et se positionner vraiment comme en tant que sacrificateur qui était entré dans ce Jourdain et quelque chose s'était ouvert pour vivre pleinement ce pays promis. Et je suis reconnaissant de voir des personnes ferventes qui prennent le temps de prier pour aller plus loin. Parce que comme le disait le prédicateur du XVIIIe siècle, John Wesley, Dieu ne fait rien si ce n'est en réponse à la prière. En français courant, ça veut dire que Dieu ne fait rien tant qu'on ne prie pas. Et il y a tellement de choses qu'il aimerait faire. Et pour ça, Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient. Et ces moments de prière et d'intercession que nous vivons dans nos soirées percées, à genoux ou à genoux chez nous, je crois que ça va déboucher vraiment sur de belles choses. Et avant d'aller plus loin dans le message, après je vais prier pour que Dieu suscite vraiment dans nos cœurs une ferveur nouvelle pour la prière. Parce que tout réveil commence par des gens qui intentionnellement se positionnent et prient. Que chacun de nous puisse être défait de tout ce qui nous retient dans ce désert, dans cette passivité, et d'entrer pleinement dans les promesses, dans le pays promis que Dieu a pour chacun, dans l'accomplissement des promesses, en tant que personne et en tant qu'Église. Et alors que je prêchais là-dessus il y a un mois, et puis que jeudi passé, on a pu aller plus loin, justement comme pour le vivre, vivre cette démarche de passer le Jourdain, voilà que dans une rencontre de leaders au niveau roman, le jour après la soirée percée, donc le vendredi, des paroles prophétiques étaient données pour différentes églises, on s'encourageait différentes églises, et il y a des paroles qui ont été données sur l'église Passion qui étaient vraiment encourageantes, notamment une de Werner Lehmann qui disait qu'il nous voyait en tant qu'église traverser le Jourdain. Et ça rejoint la prière de certains d'entre nous de l'Église, qu'il disait. Et j'ai trouvé ça complètement fou, parce que c'est juste ce qu'on avait prêché, c'est ce qu'on avait vécu quelques heures avant, ensemble dans la prière. Et quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'on vit donne ses paroles. Et ce qu'on vit ici, quand Dieu nous parle, ce n'est pas du théâtre. Dieu parle à l'Église, il est en train d'agir, et c'est puissant. Et Seigneur, je te prie ce matin par ton esprit de nous amener plus loin. On croit que tu es ce Dieu qui parle personnellement à chacun d'entre nous, mais aussi à nous en tant que famille, en tant qu'Église. Et Seigneur, je te prie que tu viennes mettre en nous ce mouvement de réveil, de prière, cette faim, cette soif d'aller plus loin. Et je te prie ce matin que tu puisses venir nous parler, au-delà des mots, au-delà des versets qui vont être dits. Seigneur, que par ton esprit, tu viennes confirmer ta parole, tu viennes toucher. Seigneur, je veux libérer ta vie ce matin dans cette salle. Je veux libérer, Seigneur, la révélation de ton esprit et que ta parole vraiment puisse agir. Amen. Et j'ai senti de vous parler de ça en introduction, pas pour faire de la pub pour nos soirées percées, mais pour que chacun, pour que l'Église, vous sachiez qu'il y a un mouvement de l'Esprit, je crois vraiment qu'il a commencé. Et j'aimerais tellement que vous puissiez aussi le vivre avec nous. Et comme je le partageais l'autre soir à nos responsables, une Église qui n'avance pas recule. La stagnation dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Soit on avance, soit on recule. Et c'est aussi le cas pour nos vies. Ne pas avancer, c'est déjà revenir en arrière. Si je n'ai pas progressé récemment par rapport à il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, c'est que je suis déjà en train de reculer. Et c'est valable pour ma vie, et c'est valable pour l'Église aussi, en tant qu'Église. On ne veut pas rester dans ce qu'on vit, mais aller de l'avant dans ce que Dieu désire vraiment. Et pour ce matin, en préparant ce message, j'ai demandé à Dieu de quoi il voulait que je parle. En général, je sens des impressions, ça se construit petit à petit, puis à un moment donné, je me mets pour préparer ce message, en général bien à l'avance, et là, à un moment donné, je m'approchais du Seigneur, c'était un peu une page blanche, or c'était pas hier, hein, c'était il y a 10 jours, et j'ai dit, mais Seigneur, tu veux parler de quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et j'ai entendu dans mon esprit, parle de Zachée. J'ai dit, ah non, pas ça. C'est un peu comme au restaurant, on te présente le menu du jour, c'est juste le truc que t'aimes pas trop, quoi. Et puis là, j'ai senti le Seigneur insister, qui dit, mais parle de Zachée, mais d'une toute autre manière, d'une façon toute nouvelle. Et si Dieu désire qu'on se penche sur Zachée ce matin, c'est parce qu'il a une intention, qu'il y a des pépites pour nous ce matin. Et je suis tout enthousiaste de vous les partager. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le passage de Zachée. C'est dans Luc 19, les premiers versets, Luc 19, où il est dit que Jésus entre dans Jéricho et qu'il traverse la ville. Et là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Et il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui passe par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi, que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Et tous ceux qui voient cela critiquent Jésus, disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée est aussi de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et Jésus est là, il passe pas loin dans la foule. C'est déjà une réunion quelque part qui est réussie. Il y a la présence de Jésus, il est là. Mais Zachée, il en veut plus. Il a une faim, une soif, il a un intérêt. Il veut entendre Jésus et même le voir lui-même. C'est pas juste comme on voudrait un peu une bénédiction ou une faveur, puis on se dit, ben, on verra si Dieu le veut. Je recevrai peut-être une parole, quelqu'un va venir vers moi. Il désire vraiment, au point d'être intentionnel. Et on retient souvent l'histoire qui monte sur un arbre. En fait, il est mis d'abord qu'il va courir. Il va courir en avant et ensuite, il va monter sur ce sycomore. Il a une soif, il court vraiment. Et depuis là, il entend et voit Jésus. Quelle grâce! C'est déjà juste extraordinaire. Nous, on est déjà bénis quand on entend puis on voit un super orateur. Mais là, c'est Jésus lui-même qui est là. Et là, c'est la toute première étape. Zachée avait sûrement beaucoup entendu parler de ce que Jésus avait dit. Je pense que ça se racontait, ça faisait le buzz des guérisons, des miracles qu'il avait eus. Mais là, il fait une démarche claire, il a envie de le voir par lui-même. Il a été intentionnel. C'est une démarche de sa part pour aller plus loin, pour s'approcher de Jésus. Mais en fait, il a changé quelque chose dans son quotidien et de sa manière de vivre pour, si je puis dire, provoquer ce qui va se passer. Il a changé quelque chose. Et souvent, Jésus, il touchait les gens qui étaient juste là, mais la plupart du temps, et même la grande majorité du temps, si vous lisez les évangiles, il y a une démarche de la part des gens, il y a une intentionnalité des personnes. Par exemple, l'aveugle de Jéricho, il va crier, la femme à la perte de sang, elle va se faufiler dans la foule, elle va toucher Jésus. Jaïrus, il va venir alors que Jésus marche, il va demander à Jésus pour sa fille. Le lépreux de Marc 1, il va s'approcher et supplier Jésus de le guérir. Et j'en passe, et j'en passe. Et là, la démarche de Zachée, elle est un peu plus discrète peut-être que de crier comme Bartimée, même s'il va courir à fond, mais il va aller pour voir un petit peu discrètement là où Jésus va passer. Mais il fait un effort immense en courant. Ben oui, il a des petites jambes. Mais il ne va pas crier ou toucher Jésus. Mais il va monter sur cet arbre et c'est déjà une première démarche, même si je pense qu'il n'allait pas forcément être vu. Mais il va provoquer ce qui va changer sa vie. Il va le provoquer. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour aller plus loin, pour provoquer une rencontre avec Dieu? Qu'est-ce que je mets en place? Quelle est ma démarche? Et je me souviens d'un ami dans le ministère, Bob Cole, qui disait toujours, si tu ne changes rien dans ta manière de vivre, tu auras toujours les mêmes résultats. Et le seul moyen pour que le résultat ou le fruit change, c'est d'amener un changement dans ta façon de vivre. Sinon, on a toujours le même résultat. Et Zachée a été intentionnel. Mais aussi, ce qui me frappe, comme on le sait, c'est qu'il était de petite taille. Donc, certains de grandeur normale ou de grande taille, ils pouvaient voir Jésus naturellement quand il passait. Ils le voyaient. Et parfois, on se dit, « Ah, mais ceux-là, ils entendent Dieu parler. » À ceux-là, ils ont des images. À ceux-là, quand ils lisent la Bible, ça leur parle. Ah, puis ceux-là, ils expérimentent tel don spirituel ou autre. Zachée, il avait l'impression que c'était facile pour les autres de voir et d'entendre Jésus. Il leur suffisait de regarder, ça marchait. mais lui, rien. Et en fait, non seulement il a été intentionnel avec une démarche, mais il ne s'est pas arrêté à l'obstacle qu'il avait. Et pour lui, l'obstacle, ben, c'était sa taille, pour voir et entendre Jésus physiquement et directement à ce moment-là. Pour d'autres, c'est peut-être d'autres obstacles. Ça peut être notre emploi du temps, ça peut être nos pensées qui vadrouillent dans tous les sens, ou encore l'impression de moins entendre que les autres, ou d'être moins touché par Dieu ou la présence de Dieu comme d'autres. Et puis on pourrait même bâcher et laisser ça pour les autres. Zachée, il aurait pu laisser ça pour les grands, pour ceux qui voyaient Jésus passer sans faire aucun effort. On pourrait laisser ça aux gens qui sont un peu plus pis, au ministère. Non, non seulement il a été intentionnel en courant, mais il a passé son obstacle en montant sur ce sycomore. Et c'est mon premier point ce matin, c'est que pour entendre Dieu, pour voir Dieu agir, ça demande une démarche de notre part. Une intentionnalité de provoquer ça. Ça ne tombe pas forcément juste du ciel. Et de ne pas se laisser arrêter aussi par les obstacles qui sont là. Et des obstacles, il y en aura absolument toujours. Déjà, notre agenda, c'est notre premier, c'est mon premier obstacle. Du coup, je bloque des moments, des temps, où je réserve des moments tôt le matin, puis si je me dis que c'est trop tôt, ben alors je vais me coucher plus tôt le soir. Comme ça, ce ne sera pas un problème de me lever plus tôt. Ou si je prends un temps plus tôt le soir, ben je laisse passer la série où elle attendra. Quoi. De toute façon, il y en a tellement. Ou bien je dis aux autres qui habitent avec moi, je leur dirai, ben voilà, je me retire un moment. Merci de ne pas me déranger. Nous, à la maison, on est 5 et 2 chats. Donc, je suis obligé d'être intentionnel. Si vous saviez ce matin, quand j'ai pris un temps, j'aime bien me lever tôt pour prier quand je prêche, les 2 chats, comme ils m'ont dérangé, c'était pas croyable. Les animaux nous sont soumis, je dois encore mettre en pratique cette parole, non? Non, au final, ils ont quand même... Ils sont un peu calmés quand même. Mais je dois être intentionnel dans ma vie de tous les jours. Sinon, j'aurai toujours des bonnes intentions, mais sans suite. Chez moi, j'ai un casque anti-bruit. Je mets de la louange, je mets du soaking, un peu de la musique, un fond musical chrétien. Et je mets sur mon iPhone et mon ordi le mode ne pas déranger. Et je dis à ma famille, aux autres, maintenant je me retire un moment. Et là, je peux rencontrer mon Dieu. Je suis seul à seul avec lui. Je crois que si on veut, on peut. Peut-être que pour toi, c'est d'aller dehors, te balader dans la forêt où tu es tout seul, sans rien. Mais comme Zachée, a priori, les obstacles, ils sont trop nombreux. Pour lui, c'était la foule, c'était la hauteur, mais il met tout en place pour provoquer la rencontre avec Dieu. Et ce verset de Jérémie 29, 13, qui montre le cœur de Dieu, est vraiment fantastique quand il est mis « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Donc il se laisse trouver Dieu. « Si vous me cherchez de tout votre cœur ». Et on trouve le « si ». Et cette condition, c'est de le chercher de tout son cœur, c'est-à-dire de se donner tous les moyens pour le chercher. Et quand on met tous les moyens, c'est la condition, quand on met tous les moyens pour le chercher, il se laisse trouver. Et ce même John Wesley que je citais avant, il a dit « Donnez-moi un homme qui cherche Dieu et je vous montrerai un homme en chemin vers la vie », c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'être touché par cette vie de Dieu. Mais la suite, c'est vraiment parlant. Parce que pour beaucoup, ben, on est déjà content si Dieu nous parle, si on le voit, lorsqu'on est en église, en famille, on a été intentionnel, notamment ce matin, on s'est levé dimanche matin, on est venu au culte, vivre l'église, vivre la famille, et là Dieu parle souvent, j'espère. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est très bavard, et il parle plus qu'une fois par semaine, au culte ou au groupe ressources. Il parle plus que les citations qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou bien les vidéos qu'on regarde. Là, on entend des hommes et des femmes dire ce qu'ils ont entendu eux-mêmes. Et pour nous, entre guillemets, c'est du réchauffé quelque part. Bon, ça nourrit, c'est bon, mais Dieu parle pour chacun personnellement et en direct. Et là, c'est là que cette rencontre va tout changer. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message, c'est une rencontre qui change tout. Une rencontre, tout change. Comme dans la vie de Zachée, qui va entendre Jésus lui parler personnellement. Et ce n'était pas juste un message pour la foule qui était là. Ce n'était pas juste un message pour un culte ou telle réunion ou tel podcast. Tout à coup, c'était une parole, comme en live, personnalisée, comme j'aime cette expression en anglais, life-changing, ça change la vie, cette rencontre avec Dieu. Et Jésus va lui parler en direct. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si Zachée était resté loin de la foule, ou bien juste aux alentours pour quand même être un peu dans le groupe, il serait passé inaperçu. Et ce qui a fait, comme on l'a vu, qu'il entendait voir Jésus, c'est de monter sur cet arbre. Et ce qui a fait aussi que Jésus lui parle, c'est qu'il a attiré l'attention de Jésus avec cette démarche. Comme on l'a vu avant avec l'aveugle de Jéricho, Bartimée, ou la femme à la perte de sang, ou encore Jaïrus. Ils ont attiré l'attention de Jésus. Et en attirant l'attention de Jésus, pas qu'il soit distrait puis qu'il ne nous voit pas, mais c'est notre cœur qui crie et qui cherche. Et ça, ça déclenche la rencontre avec Jésus. Même le brigand sur la croix, il a attiré une parole de salut et de libération et de promesse pour la vie éternelle de Jésus. En agonie, Jésus ne lui avait pas parlé. Il ne l'avait pas libéré de la croix. Il ne lui avait pas ôté ses douleurs. Ou que sais-je. Mais le brigand a attiré l'attention de Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il y a une démarche de foi, il y a une approche qui va déclencher en quelque sorte. Pour lui, c'est un réveil. Je dirais, il va revivre. C'est une personne perdue qui va expérimenter la vie éternelle, très courtement sur terre, mais longtemps ensuite. Et c'est le cas du brigand, mais ça va être le cas de Zachée. Et ce qui me frappe, c'est que pour ça, Zachée est monté sur un arbre. Et cet arbre, ce n'était pas un sapin. Parce qu'un sapin, ça piquerait un peu trop, même si Jésus guérit les malades. Ce n'était pas non plus un séquoia. Parce que s'il était monté sur un séquoia, il aurait vu Jésus tout petit en bas. Puis imaginez Zachée qui est tout petit, Jésus l'aurait vu en minuscule là-haut. Non, c'était un sycomore. Et en parlant... Et c'est parlant parce que le sycomore, ça vient du grec ancien sycomoros, qui veut dire sucone, figue, et moron, mûrier. En fait, littéralement, c'est un figuier mûrier. Il s'agit du figuier sycomore, c'est un ficus sycomorus. Comme ça, on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Vous pourrez rentrer à la maison, ficus sycomorus. Et c'était très répandu au Proche-Orient. Donc, c'est un arbre solide, aux branches basses. Donc, il est facile à monter. Ben oui, parce que si tu es petit et que les premières branches sont à 2 mètres, ce n'est pas évident. Mais là, pour Zachée, c'était pas insurmontable. Et Dieu ne te demande pas l'impossible pour que ta vie change. Il ne te demande pas l'impossible pour le rencontrer. Il ne te demande pas de grimper sur un séquoia géant. Il demande juste une démarche, une marche, une petite marche, une intention, une faim, une soif. Et le sycomore est un arbre facile à grimper. La marche, elle n'est pas très haute, mais il faut quand même décider d'y monter. Et souvent, j'ai vu, il suffit d'une petite première intention de notre part pour que ça bouge. C'est la première intention, le premier geste d'ouvrir sa Bible. C'est juste le plus dur, mais une fois que tu as commencé, tu te dis, mais pourquoi j'ai hésité si longtemps de le faire? C'est peu de choses, mais ensuite, Dieu prend le relais et s'approche. Le premier geste d'éteindre quelconque écran est de mettre la louange, être entré dans sa présence, de le louer, de se laisser toucher par le Saint-Esprit, d'avoir ce seul à seul avec lui. Et c'est parti ensuite pour vivre quelque chose avec Dieu. En fait, c'est la première démarche, c'est juste la première marche ou la branche de l'arbre, elle n'est pas insurmontable. Et c'est là que tout se joue. Il suffit d'une première étincelle pour que le feu parte. Et il suffit à Josué que les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau pour que le Jourdain s'ouvre, pour que le pays de la promesse tout à coup soit là. Mais c'est Dieu qui ouvre ensuite le fleuve, qui agit. Mais il y a une première démarche, et lui fait la suite. Et là, la démarche de Zachée, c'est de monter sur ce sycomore. Et ce n'est pas difficile, même s'il y a juste cette première démarche. Mais ce qui m'a frappé, et j'ai réalisé en préparant ce message, c'est, comme on l'a vu, le sycomore est un figuier mûrier, une sorte de figuier. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser au figuier que Jésus a maudit. Et c'est fou parce que le récit de Zachée qu'on trouve en Luc 19, Jésus traverse Jéricho, il rencontre Zachée avec l'histoire qu'on vient de voir ensemble, puis il va continuer directement et monter vers Jérusalem. Et cette rencontre avec Zachée, c'est la dernière grande rencontre qu'il va avoir avec quelqu'un avant l'entrée à Jérusalem, cette entrée où il va être acclamé, Hosanna, acclamé par la foule. Puis on connaît la suite où il va donner sa vie à la croix. Et Marc 11, 11 nous dit, « Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'est déjà le soir. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Ce figuier est rempli de feuilles. Et s'il a des feuilles et qu'il n'a pas de fruits, c'est qu'il est stérile. Parce que le figuier, les fruits viennent en même temps ou même avant que les feuilles arrivent. Donc Jésus voit ce figuier qui porte pas de fruits, qui est stérile et qui est censé en porter, alors il le maudit. Alors que quelques jours avant, Jésus, devant un autre figuier, un figuier mûrier, le sycomore, il voit un homme, Zachée, qui porte pas de fruits. Il est aussi stérile, mais il va pas maudire Zachée, mais il va parler à Zachée et sa vie va être transformée. Pourquoi ? Les deux, quelque part, sont stériles, portent pas de fruits. Mais en fait, le figuier, il est rempli de feuilles, il est feuillu, il donne l'illusion du fruit. Il prétend peut-être ce qu'il n'est pas au final. Peut-être comme ces gens dans la foule qui entendent et voient Jésus, mais qui ne portent pas de fruits. Ou peut-être comme l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, où il est dit « Tu dis, je suis riche, mais tu es pauvre. » Alors Zachée, sur ce figuier mûrier, sur ce sycomore, il ne porte pas plus de fruits que le figuier maudit hein, par sa vie, mais il a une démarche de vouloir plus. Et surtout, il ne prétend rien. Il ne se cache pas derrière ses feuilles, il cherche Jésus, même maladroitement. Zachée, il est stérile, il est conscient de son vide, il est ouvert, il est même prêt à descendre quand Jésus l'appelle. Il avait déjà fait cette démarche, mais là, il donne suite à l'appel de Jésus et ça ne va pas forcément de soi. Et quand Jésus l'appelle pour le rencontrer chez lui, c'est-à-dire dans son quotidien, dans sa maison, pour manger avec lui, c'est-à-dire communiquer, relationner, être avec, partager, là, le fruit va jaillir immédiatement. Alors que Zachée a accueilli Jésus dans sa maison, il va dire « Voici Jésus, voici Seigneur, je donne. » Sa vie a été transformée, ça produit du fruit. Et la rencontre de Jésus va activer en lui la générosité de porter du fruit et il va donner ce qu'il a autour de lui. Il donne sa vie à Jésus et ce qu'il a, il va le donner aux autres. Et pour moi, c'est ça, porter du fruit. C'est quand on va donner notre vie à Jésus et que ce qu'on a reçu de Jésus, on le donne autour de nous. Et en cherchant, j'ai été abasourdi de réaliser une spécificité du sycomore. Ce n'est pas juste le magasin à la rue des Chavannes. Mais le sycomore, c'est ce figuier mûrier. Le sycomore, il porte beaucoup de fruits, mais pas comme on l'imagine. En fait, le sycomore biblique, c'est un arbre très productif, mais il porte des fruits en grande quantité. Il y a même plusieurs récoltes par année, mais les fruits, ils poussent directement sur le tronc. Et puis les grosses branches, ils ne poussent pas au bout des petites branches ou des rameaux. Et ce sont des fruits abondants que tout le monde pouvait manger. Ce n'étaient pas des fruits rares ou de luxe ou chers. À l'époque, même les gens modestes pouvaient en consommer. Et c'est là que ça devient intéressant. Différents dictionnaires, notamment la fameuse Encyclopédie Britannica, nous dit que pour être mangeable, les fruits devaient être incisés, ouvert avant maturité. Donc sans incision, il restait dur et immangeable. Et le fait que le fruit soit incisé lui donnait la maturation, lui donnait du goût. Sinon, il restait ordinaire, de mauvaise qualité, comestible, on pouvait le manger, mais pas réellement bon ou mangeable. Et pour être réellement mangeable, pour arriver à maturité, pour avoir du goût, le fruit devait être incisé. Et je trouve vraiment fou. Plus tard, on voit un figuier censé porter du fruit, plein de feuilles, mais stérile. Et là, on est devant un sycomore, un arbre qui porte bien du fruit, mais sans vraiment du goût. Et ce qui va donner du goût, c'est l'incision dans le fruit. Et Zachée lui-même, il est sur ce sycomore. Et ce qui va transformer sa vie, la changer d'une vie fade, d'une vie sans goût, sans fruit quelque part, c'est l'incision dans son cœur. C'est l'incision dans son cœur. Et c'est le deuxième point de mon message ce matin. C'est l'incision du cœur va produire un fruit généreux, un fruit goûteux qui a du goût. Mon premier point, c'était l'intention. C'était d'être intentionnel, de faire déjà une démarche, d'avoir faim et soif, de provoquer la rencontre. Là, ça va plus loin. C'est l'incision du cœur. Et lorsque Jésus lui parle et que Zachée descend de l'arbre, il obéit direct. Il invite Jésus chez lui, dans sa maison, dans sa vie, dans son chenil, je ne pense pas qu'il avait rangé en prévision, comme quand on a des visites, il ne savait pas que Jésus allait venir. Il n'invite pas juste Jésus chez lui, mais il lui ouvre son cœur. Il y a un réel cœur à cœur. Est-ce que ça va produire, c'est une incision du cœur, ça va produire un fruit magnifique. Pour quelqu'un qui est aisé, qui fait partie de la haute classe sociale, même s'il l'avait été sans vraiment être honnête, plutôt malhonnête, il ne va pas juste entendre Jésus de loin, il va déjà faire cette démarche de le voir, de l'entendre vraiment de ses propres yeux, mais il va même encore le recevoir chez lui, mais il va encore aller plus loin de cette rencontre. Lui qui a une vie insipide, qui ne porte pas de fruits pour les gens, il va laisser son cœur être incisé par l'amour de Jésus qui vient chez lui et l'aime comme il est. Jésus l'aime comme il est et ça va ouvrir son cœur, inciser son cœur. Et ça va faire que Zachée va produire beaucoup de fruits, comme un sycomore. Et pas juste du fruit du bout des branches, mais carrément du tronc, des grosses branches, carrément de sa vie. C'est-à-dire pas juste des branches, pas juste de ce qu'il fait, mais de son tronc, carrément de qui il est lui. Son être entier va produire du fruit goûteux, généreux, parce qu'il a été incisé. Ça va produire de sa vie une générosité. Il va donner tout, il va donner ce qu'il a. Et ce n'est pas juste financier. Il va ouvrir sa vie pour les autres. C'est ça l'incision. Coupé, ouvert, et il va devenir mature et de bon goût. Et c'est de ça que parle Paul dans Romains 29, quand il dit la circoncision, dans Romains 2, 29, pardon, la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Et il parle d'une opération intérieure. Dieu enlève ce qui rend le cœur dur, afin que sa vie puisse circuler. Ce n'est pas un signe visible, mais ça produit un fruit visible. Et comme le fruit du sycomore devait être incisé pour mûrir, notre cœur doit être incisé, ouvert par l'esprit pour produire du fruit. Et d'ailleurs, Paul montre plus loin dans Romains 5 qu'avec cette incision, l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et dans Galates 5, 22, il va carrément dire quel est le fruit que ça va produire, ce fameux fruit de l'esprit que va amener un cœur incisé. Waouh ! Et c'est ça, moi, c'est l'étape que j'ai envie, c'est ce que j'ai envie pour ma vie. C'est de faire une démarche, de ne pas avoir juste l'écho, avoir l'écho de ce que les autres ont découvert ou entendent de Dieu, mais faire la démarche et être intentionnel pour entendre et voir Dieu moi-même. Mais ensuite, alors que j'entends Dieu me parler, que je le vois agir, qu'il me parle personnellement, je désire lui obéir, le suivre, l'accueillir dans mon quotidien, dans ma vie. Ça va changer quelque chose s'il vient chez moi, dans mon cœur, comme Zachée qui a reçu Jésus dans son chez lui. Et là, vivre cette communion, ce partage, laisser mon cœur être incisé et produire un bon fruit à manger. Et comme l'a fait Zachée, finalement, bénir les gens autour de moi. Lui, c'était en rendant l'argent qu'il leur avait pris. Il est lui-même restauré, mais il a aussi restauré les gens qui étaient autour de lui. Et ceux qui ont été impactés, en mangeant du fruit de sa repentance, ce fruit qu'a produit l'incision, ce fruit abondant de sa vie, ce n'est pas des inconnus, ce sont tous les gens à qui il avait affaire avant. Et moi, je désire porter du fruit, un fruit abondant dans ma vie, qui vient directement de qui je suis, c'est-à-dire comme le sycomore de mon tronc, pas juste de ce que je fais avec mes mains, mais de qui je suis, comme le sycomore, mais un fruit qui va donner du goût aux gens à qui j'ai affaire, à ceux qui m'entourent, parce que j'ai laissé Dieu inciser mon cœur. Et ça, c'est le message que l'Esprit veut te dire à toi et à moi ce matin. Et je sentais aussi que c'est un message pour l'Église. Et c'est le désir que j'ai, c'est que nous avons aussi, c'est ce désir que nous avons pour l'Église Passion. Et la phrase qui résume l'Église Passion, qu'on voit d'ailleurs directement si on va sur la première page de notre site, c'est une Église où tu rencontres Dieu, où tu es touché dans sa présence, transformé par son amour, pour le transmettre autour de toi. En fait, c'est le récit de Zachée. C'est rencontrer Dieu, sa présence, être touché, incisé dans son cœur, être transformé pour transmettre cet amour autour de nous. Et moi qui ne voulais pas prêcher sur Zachée. Et pourtant, c'est la vision qui nous habite. Après, c'est mieux de s'appeler Église Passion qu'Église Zachée, j'en conviens. Mais on désire que l'Église Passion soit ce lieu où Jésus s'arrête, parle, invite et rencontre les gens. Un lieu où on rencontre Dieu, où on goûte à sa présence. Pas juste un bon café au bar, pas juste des chants qu'on aime bien, pas juste un message où on apprend plein de choses. Pour un bon café, on peut aller dans un bon café. Pour des chants qu'on aime bien, on peut aller sur YouTube, Spotify, Apple Music, écouter nos chants préférés. Pour apprendre du biblique, on peut lire des livres, écouter des enseignements. Tout ça, c'est bien, c'est complémentaire, c'est disponible. C'est ce qu'on peut vivre, c'est un peu la foule. Mais en tant qu'Église, j'ai envie que l'Église Passion, on monte sur l'arbre pour entendre vraiment Jésus nous parler et qu'on puisse le voir concrètement de nos yeux. J'ai envie et je rêve de sa présence, c'est-à-dire que Jésus s'arrête, qu'il s'arrête parce qu'on attire son attention par nos cœurs qui le louent, nos cœurs qui sont là, on a faim et soif de lui. Alors c'est vrai qu'il est partout, il est omniprésent. Mais dans l'histoire de Zachée, il s'arrête, il est proche. Sa présence est forte, c'est tangible. Et c'est ce que je désire, c'est qu'à un moment donné, il est là. Il va nous parler personnellement pour nous rencontrer. Et j'ai envie, en tant qu'Église Passion, d'inviter Jésus dans notre maison, comme Zachée. En tout cas, de l'accueillir, alors qu'il a envie et qu'il s'arrête vers nous. C'est-à-dire la présence de Jésus soit là, et pas juste du bout des branches de certaines choses qu'on fait, mais partout contre le tronc de qui on est, notre identité, d'être dans la présence de Jésus, dans tous les secteurs, nos activités, dans tout ce qu'on fait, mais aussi surtout dans qui on est. C'est ça le tronc. Et j'ai envie et je rêve d'une église qui, alors qu'elle a invité Jésus, que la maison, que l'église est remplie de la présence de Dieu, qu'on communie, qu'on relationne, qu'on mange, qu'on l'écoute, un peu comme Marie au pied de Jésus. Je rêve qu'on n'en reste pas à ça, mais que ça, pour produire peut-être juste du fruit ordinaire, du fruit commun, même beaucoup de fruits, mais des fois qui est juste mangeable, comme ceux qui sont abondants sur le sycomore, mais juste comestibles, des fois durs et pas trop agréables. J'ai envie que le fruit que nous portons en tant que personne et en tant qu'Église soit goûteux, généreux, pour tout le monde, pour les gens, et que ça ait un impact, comme Zachée a eu un réel impact sur son entourage. J'ai envie que notre Église soit incisée, que Dieu puisse couper, qu'on puisse s'abandonner, s'humilier dans sa présence, en s'ouvrant à l'action de son esprit jusqu'au plus profond de notre cœur. Notre fruit mûrisse, devienne mature et ait du goût. C'est ça vraiment notre vision, une Église où tu rencontres Dieu parce que Jésus s'arrête là, où on est touché parce qu'il est là, et on est transformé, incisé par son amour pour transmettre ça plus loin. Toucher dans sa présence, être transformé. Pas pour devenir une super église, comme le figuier qui a plein de feuilles, mais au final, qui n'a pas forcément des fruits matures, mais du fruit goûteux et mature pour transmettre ça autour de nous. Comme Zachée, son fruit, il était bon à manger pour tous les gens envers qui il les a donnés parce qu'il s'est donné. Et moi, je rêve d'une église généreuse, comme notre slogan, passionné de Dieu et passionné pour les gens. C'est un état d'esprit de cœur quand je dis ça. On va se donner. On n'est pas là pour recevoir. Ça, on le sait, mais on n'est pas là pour consommer du bon café. On n'est pas là pour consommer de la louange ou consommer des bons enseignements. Parce qu'il y aura toujours de quoi dire sur la qualité du café. Il y aura toujours de quoi dire sur la qualité de la louange. Et il y aura toujours de quoi dire sur la qualité des messages. Ça, c'est quand on consomme. Mais quand on se donne, que c'est mon église, que c'est mon café, que c'est ma louange, que c'est mon message que Dieu est en train de me donner, que je le mange, qu'il incise mon cœur, que je suis transformé, je vais avoir ce cœur généreux qui transmet plus loin cet amour. Généreux et goûteux, parce que je ne suis plus en visite, mais je suis chez moi. Et Jésus, je ne le vois pas juste depuis l'arbre, mais je suis dans la maison. L'Église est ma maison et on se donne. On accueille la présence de Dieu, on partage ce qu'on vit. Et je rêve d'une église où les gens vivent cette maison, c'est-à-dire qu'on est généreux, déjà par peut-être notre implication, parce que quand on est chez soi, quand l'église est ma maison, que je ne suis pas juste un visiteur, ben je vais bien accueillir Jésus dans ma maison, et je vais aussi bien accueillir les autres, les invités qui arriveraient. Je vais être généreux aussi, ben financièrement, si je n'ai pas de mentalité de visiteur, je vais participer. Et ce n'est pas juste un noyau qui va donner, mais des hommes et des femmes qui donnent pour qui les standards de Jésus de se donner, de se laisser inciser pour porter du fruit, pas juste du bout des branches, mais inciser vers le tronc, c'est-à-dire l'essentiel. Je rêve d'une église qui a un impact sur l'extérieur. Tellement la présence de Jésus est forte dans la maison, comme avec Zachée. Tellement il a transformé nos cœurs, le cœur de l'église, que ça va produire du bon fruit, qui est vraiment goûteux, qui fait la différence. Et lorsque les gens vont manger du fruit qu'on va leur donner, ils ne vont pas le trouver dur à manger ou à peine mangeable, un peu ce côté indigeste, qui toucherait peut-être de temps en temps des gens un peu affamés qui vont quand même le manger. Mais un fruit qui a du goût parce qu'on s'est laissé inciser dans le cœur, transformer, on s'est laissé transformer, qu'on a suivi Jésus. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des chrétiens, mais vraiment des disciples qui le suivent vraiment. Et là, le fruit que les gens vont manger, il ne sera pas juste insipide et dur, mais lorsqu'ils le goûteront, il y aura le goût de vie qui sont laissés inciser par le Saint-Esprit. Et ils voudront en manger encore et encore. Ils voudront venir dans la maison. Ils voudront être dans cette maison où est Jésus, où sa présence est là, où à leur tour, leur vie va être incisée et transformée. Et Deutéronome 30, verset 6, nous dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et que tu vives ». C'est ça, être un disciple, c'est l'aimer entièrement, de tout son cœur, de tout notre être. Pour qu'on vive, c'est-à-dire qu'on manifeste, qu'on ait la plénitude de la vie en nous. Et s'il y a une plénitude de vie, elle déborde. C'est ça, le manifester pleinement la vie. Et Colossiens 2,11 nous dit, en lui, vous avez été circoncis en vous dépouillant du corps de la chair. C'est ce qu'a vécu Zachée, il a été incisé en se dépouillant de ses travers. Lui, c'était l'avarice et l'amour de l'argent. Mais ça peut être tout ce qu'on a vu, par exemple, il y a un mois, avec la mentalité d'Égypte, toute autre tentation de la chair. Pas besoin d'en faire une liste aujourd'hui. Mais c'est cette incision qui va amener du fruit, qui ne va pas être dur, mais qui va avoir du goût. C'est tout s'imbrique, c'est fou. Et le fameux homme de Dieu, Tozer, a dit « Il est difficile d'imaginer que Dieu bénisse profondément un homme sans l'avoir d'abord profondément touché. » Profondément touché, c'est-à-dire profondément touché dans le cœur, comme incisé. Difficile d'imaginer quelqu'un qui vit cette plénitude de la bénédiction. Profondément touché. Et pour conclure, j'aimerais rebondir sur le message de Benjiro de notre dernier culte. Il était question de Nathanaël. Il était où ? Sous un figuier. Et Dieu l'a vu ? Je t'ai vu sous le figuier. Et aujourd'hui, Dieu nous voit aussi sur notre figuier, comme Zachée, pour toucher nos cœurs. Où est-ce que j'en suis personnellement ? Est-ce que je suis dans la foule, puis j'entends ceux qui ont vu Jésus agir ? Est-ce que j'ai déjà fait cette démarche et je suis sur l'arbre pour voir et entendre Dieu ? Ou Jésus me parlait personnellement, ou je l'ai carrément invité dans le quotidien de ma vie de tous les jours, dans ma maison, que je prends du temps, que je suis intentionnel ? Ou même que j'ai même laissé le Saint-Esprit inciser mon cœur pour porter un fruit qui est bon et qui a du goût pour les gens du dehors. Et en tant qu'Église, on veut être une Église qui n'entend pas juste ce qui se passe de bon ailleurs, mais on veut monter sur cet arbre et entendre Dieu de façon tangible. On veut laisser la présence de Dieu s'installer dans la maison, dans tous les domaines de notre vie d'Église, pour que cette présence de Dieu soit tellement forte qu'elle incise et transforme les cœurs. Pas une église d'apparence, pleine de feuilles, mais une église où on se donne, où on laisse Dieu transformer les cœurs, où on se consacre et que ça produise du bon fruit, de la générosité pour la maison, pour les autres du dehors. Qu'on soit un groupe d'hommes et de femmes passionnés de Dieu et passionnés pour les autres, pour les gens de la maison entre nous, et pour les gens du dehors. Amen. J'invite le groupe louange, on va prendre un chant comme pour terminer, mais je vais encore prier alors que le groupe s'installe. Seigneur, je te prie vraiment de nous parler ce matin, parce qu'on a tellement faim et soif de porter ce fruit qui a plein de goût, qui est goûteux, qui est juteux, qui est généreux, pas qui est dur et tout juste comestible. Et Seigneur, si les fruits ont cette odeur qui font envie, les gens ils vont vouloir les manger. Les gens qui m'entourent vont vouloir goûter à ça. Les gens qui viennent ici à l'église vont aussi vouloir le goûter parce qu'ils vont sentir l'odeur comme ce panier de, rempli de fruits mûrs, de fruits qui ont du goût, de ces fruits, de ces cœurs qui ont été circoncis, de ces cœurs qui ont été transformés. Et je te prie, Saint-Esprit, de faire ton œuvre en nous. Ce n'est pas juste des belles paroles qu'on veut vivre, Seigneur. Tu nous parles et on veut véritablement laisser l'action de ton esprit. Et Seigneur, moi je veux te dire déjà pour ma vie, je ne veux pas juste, Seigneur, t'entendre rester sur mon arbre et entendre ce que tu dis, mais je veux t'accueillir dans le quotidien de ma vie. Je veux aménager ces moments, être intentionnel. Je veux provoquer la rencontre avec toi. Et alors que tu me parles, je veux dire oui, Seigneur, je suis prêt à être dépouillé de cette mentalité d'Égypte ou de ma chair. Viens couper dans mon cœur pour que ce cœur que j'ai, il ne soit pas dur ou à peine comestible ou ne fasse pas envie à ma famille ou les gens qui m'entourent, mais qu'il soit incisé, circoncis pour produire ce fruit de l'Esprit. Viens faire ton œuvre, Saint-Esprit. Amen.